Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, c'est le dimanche du bon pasteur. Il nous est donné de contempler le Christ, notre Seigneur, qui est l'unique pasteur. De cet unique pasteur, nous vivons et nous voulons vivre. Alors bien sûr, tous les chrétiens vivent du bon pasteur, spécialement les laïcs vivent du bon pasteur en gouvernant leur famille, en gouvernant le monde, c'est-à-dire en le réordonnant vers Dieu. Les laïcs vivent du bon pasteur en recevant ses sacrements, en assistant à la Sainte Messe. Les laïcs vivent encore du bon pasteur en faisant de l'apostolat dans le monde. Mais la figure du bon pasteur chez le prêtre est différente, car pour nous c'est un ministère, c'est-à-dire une configuration de tout notre être au Christ bon pasteur, comme le dit le dernier document de Jean-Paul II sur cette question. C'est de cette configuration au Christ bon pasteur que je veux vous entretenir. Le Christ, le bon pasteur, donne sa vie pour ses brebis et il les connaît car il n'est pas mercenaire. Ce sont les deux points de mon plan. Tout d'abord, le Seigneur donne sa vie. Il donne sa vie et nous sommes appelés, nous, les pasteurs, c'est-à-dire le Saint-Père en premier, le premier des évêques et tous les évêques, les pasteurs de l'Église sont les évêques et les prêtres leurs premiers collaborateurs. Et notre vie est une vie consacrée, donnée à ce Christ bon pasteur pour être nous-mêmes dans la réalité et non pas dans l'idéalité, les bons pasteurs du peuple. Alors me direz-vous, c'est une vocation étrange et à part. Oui. Tout d'abord, il faut vous rappeler que la vocation, elle est pour tous naturelle et c'est une vocation à aller vers Dieu. Et cette vocation à aller vers Dieu, elle se traduit naturellement par un appel dans le cœur, à se marier, car il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça la vocation naturelle de tout homme et de toute femme, qui ne trouve pas toujours à se réaliser, car on ne trouve pas toujours à qui donner son cœur, mais c'est ça la vocation naturelle que vous êtes invité à exaucer dans une vocation surnaturelle qui ne change pas cet état et qui s'appelle le mariage. C'est votre chemin vers Dieu. Ceux qui reçoivent une vocation particulière, une vocation spéciale au célibat apostolique, ils la reçoivent en plus. Sinon, nous serions des êtres anormaux. Et nous ne le sommes pas. Nous recevons cette vocation en plus, cette vocation purement surnaturelle, qui va supposer d'abandonner notre vocation naturelle. Voilà pourquoi notre ordre est supérieur au vôtre, parce que nous avons fait un don plus grand, celui du célibat, nous avons abandonné la chose la plus haute qui existe dans ce monde, se marier et engendrer. Voilà cette vocation surnaturelle qui se greffe sur ma vocation et qui me propose un chemin d'abandon, d'offrande, d'holocauste. Où sommes-nous allés chercher une telle idée ? Mes bien chers frères, nous sommes allés la chercher tout simplement dans la Bible et dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas faire à croire autre chose. Déjà dans l'Ancien Testament, les prêtres, qui étaient mariés, vous le savez, eh bien, exerçaient leur ministère de manière exclusive 3 mois dans l'année. C'est pourquoi on les tirait au sort, comme Zacharie dans le temple. Il a été tiré au sort, c'est-à-dire qu'il n'habitait plus avec sa femme et sa famille, il n'avait pas encore d'enfant, et il habitait pendant 3 mois dans le temple, persuadé déjà dans l'Ancien Testament qu'on n'était que le service presbytéral, sacerdotal, est un service exclusif. Voilà pourquoi, lorsqu'il a une apparition, il ne peut pas en parler tout de suite à son épouse, il ne pourra pas lui en parler du tout, car il perdra la parole, bien, tout simplement, parce qu'il n'habitait pas chez lui à ce moment-là. Et le premier qui a inauguré un sacerdoce permanent, durable, eh bien, c'est Jean-Baptiste, qui est le précurseur en la matière aussi. Jean le Baptiste, lui, le fils de prêtre, le fils de grand prêtre, et par son père et par la famille de sa mère, eh bien Jean le Baptiste, au lieu d'être dans le temple et de sacrifier, de se marier, Jean le Baptiste va se vêtir d'une peau de bête, signe qu'il n'est pas dans le monde, qu'il ne se mariera pas, et il ne sera pas dans le temple, il sera au désert. Il inaugure dans sa personne le nouveau sacerdoce que le Christ va établir, car le Christ, notre Seigneur, a vécu ainsi ce célibat apostolique donné à 100% à la mission qui est la sienne de sauver le monde. Nous ne sommes pas allés chercher ailleurs l'image du sacerdoce. Nous ne l'avons pas inventé après. Nous l'avons pris tout simplement du Christ notre Seigneur et nous en vivons fidèlement. Alors il me faut répondre à une petite question historique tout de même, vous le savez. C'est une hésitation qu'il y a eu dans les premiers siècles de l'Église. Le sacerdoce célibat apostolique a existé tout de suite, parce que c'est le Christ. Et on en a vécu immédiatement. Saint Paul en est un exemple éclatant. Lui, fils de pharisien, aurait dû se marier. Il ne s'est pas marié. Alors bien sûr, on a hésité, on s'est dit, est-ce que l'on peut imposer ça à un homme? Est-ce qu'on peut demander cette configuration, ce don total de sa vie? Et on a décidé que oui. Dans l'Orient, on a décidé que oui et non. En Orient, c'est-à-dire, c'est ce que tiennent encore toutes les églises orientales, de tradition orientale catholique, ou les orthodoxes, eh bien, on s'est dit, on va évidemment réserver la plénitude du sacerdoce aux célibataires. Car, vous le savez, tous les évêques sont issus des moines et ils sont tous célibataires. On ne donne pas la plénitude du sacerdoce à quelqu'un qui a un autre engagement. Mais on tolère qu'il existe également un clergé marié, ou plus, parce que vous savez, on ne peut pas se marier quand on a reçu l'onction sacerdotale, mais on peut la donner en Orient à quelqu'un qui est marié. L'onction sacerdotale vous fige dans l'état où vous êtes marié, vous le restez, vous êtes célibataire, vous le restez. Mais aussi, dans ces églises, la plénitude du sacerdoce, la parfaite configuration au Christ, c'est le célibat apostolique. Ce n'est pas parce que ce n'est qu'au IVe siècle, enfin c'est déjà au IVe siècle, qu'un texte définitif dans l'Église va fixer ce célibat apostolique qu'on n'en a pas vécu avant. L'Immaculée Conception a été proclamée tardivement, saint Thomas d'Aquin en parlait déjà et d'autres avec lui. Donc ce n'est pas parce que quelque chose est déclaré au IVe siècle qu'on ne l'a pas vécu avant. Donc non, mes bien chers frères, le célibat apostolique n'est pas une invention tardive de l'Église ou postérieure au Christ, elle est de lui, elle naît avec lui et elle a des soubassements dans l'Ancien Testament. Notre sacerdoce du célibat apostolique est biblique. Alors, et c'est mon deuxième point, ce sacerdoce nous invite à n'être pas des mercenaires, c'est-à-dire à ne pas exercer cela comme un métier ou comme une fonction. On me demande souvent, parce que j'ai été ordonné tardivement, « Ah, alors, comment avez-vous fait? Vous avez choisi entre votre métier d'avocat et la prêtrise. » Eh bien non, je n'ai pas choisi entre mon métier et la prêtrise. J'ai choisi le lieu où j'allais donner ma vie. Le sacerdoce n'est pas une fonction, ce n'est pas un job, c'est la donation de toute ma vie. Vous n'avez pas choisi soit de vous marier, soit d'être ingénieur. Non, ce n'est pas du même ordre, ce n'est pas la même chose. Et si d'aventure vous étiez, je ne sais pas quoi, ingénieur spécialisé sur le réseau autoroutier français, pourquoi pas, ça doit exister, et que vous épousez une Chinoise et que vous allez vivre en Chine, eh bien vous abandonnez votre métier de spécialiste de l'autoroutier français. Parce que c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas choisi entre avocat et prêtre, mais parce que j'ai choisi d'être prêtre, eh bien, je ne pouvais plus être avocat. Mais ce n'est pas du même ordre, ce n'est pas la même chose. Le sacerdoce, c'est le lieu où je donne mon cœur, c'est le lieu où je donne ma vie, c'est le lieu où je me donne entièrement. C'est ça la beauté du sacerdoce catholique. Ne laissez pas arracher à l'Église la beauté du sacerdoce, car vous le savez, il est battu en brèche. Tout est bon pour le mettre à bas. Les premières bêtises que l'on entend parfois sur cette question seraient les vocations. Ah, alors si les prêtres étaient mariés, il y aurait plus de vocations. Bien sûr, il n'y a qu'à regarder les églises protestantes. Elles ont moins de vocations que nous. Elles n'ont plus de vocations. Elles sont en train de mourir, tout simplement. Si je me mets à l'exception, les évangéliques, pour d'autres raisons. Et alors, la deuxième bêtise qu'on a trouvée maintenant, parce que celle-là ne marche pas, oh, mais le célibat doit être source de perversité. Ben dites donc, si le célibat est source de perversité, je ne veux pas revenir dessus, mais il y a de quoi se faire vraiment du souci puisque, je ne sais pas à Versailles, mais je sais qu'à Paris, où il y a 2 millions d'habitants, il y a plus de 30% de célibataires. Alors ne marchez pas dans les rues de Paris. C'est source de grandes difficultés. Voyez, il faut arrêter de croire les bêtises qu'on entend, car la perversité, les perversions de toute nature, ne sont pas réservées aux célibataires et encore moins aux prêtres. Malheureusement, elles n'excluent pas de toucher aussi les célibataires et aussi les prêtres. Nous ne sommes pas des hommes en dehors du monde, nous sommes des hommes comme les autres. Vous le savez, j'ai coutume de le dire, aussi idiot j'étais avant, aussi idiot je suis après mon ordination. L'ordination n'est pas un coup de baguette magique qui transforme la nature. Elle me laisse dans mon état et me donne des grâces particulières, tout comme le mariage ne fait pas d'un seul coup d'un homme ou d'une femme quelqu'un de fidèle, de bon, de disposé, de donné. Non, si vous étiez infidèle, pervers, égoïste avant, eh bien il y a lieu de penser que dans votre mariage, ça va être difficile. Voilà. Cette vocation sacerdotale n'est pas une vocation de mercenaire, ce n'est pas un métier. Alors c'est vrai qu'on s'y trompe parfois, car j'ai aussi un métier, j'ai aussi quelque chose à faire, et ça, ça peut changer. Mon être de prêtre, c'est toujours. Je suis prêtre matin, midi et soir, et comme en plus, je ne suis pas donné à une épouse et à des enfants, car quand on est donné à une épouse et des enfants, même dans l'Orient où il y a des prêtres ainsi, bah, la première obligation, c'est d'être présent à son épouse et ses enfants. C'est-à-dire qu'on n'est pas entièrement livré, corps et âme, matin, midi et soir, et la nuit parfois aussi quand on nous réveille, pour être donné au peuple de Dieu. Alors évidemment, cette donation de tout mon être, elle suppose aussi un travail. Et ça, il peut changer. J'ai été, pour l'instant, vicaire en Seine-Saint-Denis, j'ai été aumônier dans un collège, le collège Stanislas, je suis maintenant curé d'une paroisse à Paris, et demain, peut-être, aurai-je une autre fonction, un autre métier, mais cela ne changera rien à mon état sacerdotal de célibat consacré, donné entièrement et livré. Ce n'est pas... J'ai parfois coutume de dire que je ne suis pas vraiment célibataire, je vis le célibat apostolique, mais je ne suis pas libre, je ne suis pas disposé. Ainsi, par exemple, mes parents, mes pauvres parents, ne me voient pas beaucoup et me voient moins que mes frères et sœurs qui sont mariés et qui ont charge de famille, parce que moi aussi, je suis occupé, livré, et qu'à Noël, à Pâques, à toutes les fêtes, je me dois d'être parmi ceux pour qui j'existe, c'est-à-dire ceux qui reçoivent cette donation. Alors, mes bien chers frères, c'est une donation, cela suppose une réception, et vous êtes les auteurs de cette réception sacerdotale. Oui, il n'y a pas de prêtre sans peuple de Dieu. Le Concile Vatican II le dit bien, il ordonne une vocation à l'autre. Ainsi, là où il n'y a plus de chrétiens, eh bien il n'y a plus de prêtres. Cela veut dire que si vous voulez qu'il y ait des prêtres et que le sacrifice du Christ reste présent parmi nous toujours, il vous faut être des chrétiens exemplaires et livrés. Il vous faut être des saints. Il vous faut vous donner les uns aux autres et recevoir le sacerdoce qui est le mien. Oui, c'est un acte juridique qui me constitue ou qui constitue l'abbé de la Motte comme un curé, mais c'est un acte de réception et d'amour qui nous constitue comme le vrai curateur de vos âmes, c'est-à-dire la place que vous nous laisserez, la place que vous nous donnerez, la place que ce que vous solliciterez, voilà ce qui va faire de nous véritablement des prêtres de Jésus-Christ. Alors il vous faut prier, il vous faut nous accueillir, il faut prendre soin de ses pasteurs comme on prend soin de son père et de sa mère aussi, car c'est la vie sans cesse qui est transmise par nos mains. Ne vous laissez pas arracher et ne laissez pas périr dans l'Église cette extraordinaire présence du Christ vivant dans son ministère auquel nous sommes configurés et qui, dans les sacrements, se rend visiblement présent. L'existence du sacerdoce et du célibat apostolique est le plus grand trésor que nous ayons après l'Eucharistie, bien entendu, que nous puissions toujours en vivre. Je pensais avec émotion, en préparant cette homélie, aux saints prêtres que j'ai connus quand j'étais enfant. J'en ai connu de nombreux. Ils étaient tous plus saints les uns que les autres. Je tremble à l'idée de ce que penseront les enfants de cœur qui sont derrière moi quand ils seront plus âgés, et de savoir quel genre de prêtre ils ont connu. J'espère qu'avec votre prière, ils pourront dire la même chose. Ainsi soit-il.